RFI et France 24 présentent. Radio Foot International.
Éric Mamrut.
Bonjour, bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Café des Sports avec aujourd'hui quatre consultants ragaillardis par le printemps tout juste arrivé sur la France. À l'image de Rémy Gonneau, bonjour, vous avez un petit bouquet de violettes dans les poches ou dans les cheveux peut-être?
Ne vous en faites pas, c'est juste pour vous dire que ça brille, c'est rouge et surtout c'est lumineux parce que nous sommes sur la bonne voie et surtout nous sommes en train de vouloir de plus en plus se faire que Xavier Barré disparaisse de ce plateau.
C'est très très gentil pour votre acolyte Xavier Barré qui pourtant est venu avec des roses dans les mains en guise de paix, mais non.
Doctus cum libro, disait-on dans l'Antiquité, intelligent avec ses livres, ses notes, donc j'ai tout ce qu'il faut. En tout cas, bonjour à tous et croyez-moi, je ne laisserai pas Rémy faire un cavalier seul.
Ça promet. Ouh là là. Yoro Mangara, bonjour. Peut-être des fleurs d'hibiscus avec vous, notre ami sénégalais.
Exactement. Bonjour Eric. Bonjour à tous.
Frédéric Suto, sa coupe de printemps bien très célèbre. Le relais
des auditeurs.
Le relais des auditeurs, toujours votre
tablette. Des fleurs d'auditeurs, on va dire. Hein, Facebook Live qui vient de s'ouvrir. Et un des premiers messages, il est pour vous Eric.
Hein. Ah bon.
Jaffer Ondongo, en l'absence de Madame Annie. J'en profite pour écouter la voix d'or d'Éric Mamrut.
C'est surtout d'apprécier ces trois pièces.
Les trois pièces. Et puis un petit message pour Rémy aussi. Le surnom, c'est vrai qu'on l'avait pas. Rémy Gononaldo.
C'est pas mal.
Ah, oui.
Faut reconnaître que ça sent vraiment la fin de carrière.
Bon. On est parti sur des bases là. Ça va être une belle émission avec comme programme aujourd'hui bien l'équipe de France, bien sûr. Ces Bleus malmenés, martyrisés hier en Croatie en quart de finale aller de la Ligue des Nations, défaite 2-0 à Split. À l'issue d'une prestation plus que médiocre, les questions sont évidemment multiples. Avant le match retour de dimanche, le baptême d'Aliou Cissé avec la Libye. C'était hier soir à Benghazi avec à l'arrivée un match nul contre l'Angola, le champion d'Afrique sénégalais, qui vit sa première expérience hors de ses bases en tant que sélectionneur. Pendant ce temps-là, le Sénégal et son nouveau coach Pape Thiaw s'apprêtent à défier le Soudan demain en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Un match à ne pas rater pour les Lions, deuxième de leur groupe, justement derrière les Soudanais. Ces éliminatoires nous emmèneront également en Amérique du Sud, où le Brésil a péniblement battu la Colombie. Hier à Brasilia, Vinicius a joué les sauveurs à la dernière minute, mais la sélection a-t-elle vraiment rassuré? Et puis évidemment, nous refermerons ce Café des Sports avec les traditionnels cartons de la semaine, vos cartons de la semaine et ceux de nos invités. Un Café des Sports préparé aujourd'hui avec Saliou Diouf, Laurent Salerno et Mathieu De Gueldre pour la partie radio. Les moyens vidéo étant assurés par Swell Kedir, Steven Esli et Yann Bourdelat. On ouvre le débat avec l'équipe de France. Une première mi-temps catastrophique, une deuxième un petit peu meilleure, mais la défaite au bout pour des Bleus apathiques et sans inspiration hier à Split 2-0. Pour la Croatie, lors du quart de finale aller de la Ligue des Nations, Xavier, allons. Qu'est-ce qui s'est passé? Où étaient les Bleus en première période, surtout hier?
Surtout en première période, ils se cherchaient tout simplement. Il faut rappeler que Kylian Mbappé n'avait pas joué les 4-5 derniers matchs. Donc Ousmane Dembélé, ça ne vous a pas échappé, je pense que ça a échappé à personne. Depuis cet automne, a complètement transfiguré son jeu et son efficacité en jouant dans un rôle plus en pointe au Paris Saint-Germain, s'est retrouvé en meneur de jeu avec Kylian Mbappé à ses côtés, avec toujours Kolo Muani, et il fallait qu'il y ait une entente entre ces trois-là, alors que c'est un dispositif tactique un peu nouveau, et ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, en deuxième période, Didier Deschamps a repositionné Ousmane Dembélé dans le registre où il était habituellement chez les Bleus, plutôt sur la droite. Ça a mieux fonctionné, mais ça n'a pas suffi pour rattraper le retard concédé aux Croates.
Mais on a l'impression, au-delà de l'aspect tactique, que Je ne sais pas, ils n'avaient pas de gaz au début, ces Français. Pas d'envie, Rémi, enfin, il n'y avait pas d'impact physique. Il n'y avait pas grand-chose, j'ai l'impression, non ?
Pas d'impact, mais en même temps aussi, il faut savoir que lorsque vous avez un milieu de terrain qui n'est pas créateur...
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs problèmes imbriqués les uns dans les autres.
Voilà.
Au-delà, peut-être, pour parler de la motivation, est-ce que le fait de jouer la Ligue des Nations, c'est pas l'Euro, c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas la Ligue des Champions, avec son club, est-ce que vraiment ça motive des joueurs en pleine saison, mois de mars, comme ça ? Est-ce qu'il pourrait expliquer ce début de partie un peu plan-plan ?
Non. Je crois que les joueurs avaient bien envie de prouver quelque chose, même Kylian Mbappé voulait bien prouver quelque chose, et bien évidemment aussi... On était quand même là devant les deux attaquants les plus prolifiques de l'Europe en ce qui concerne 2025. C'est-à-dire que Mbappé, c'est 22 buts en 2025. C'est plutôt c'est Kylian. Kylian est à 17 et puis vous avez finalement Dembélé qui est à 22. Donc, vous voyez que ceux qui viennent juste derrière, vous avez juste des gars qui sont des grands buteurs à 12 buts. Donc, l'équipe de France était attendue sur le plan offensif, mais il a été inoffensif. Mais il faut quand même dire que lorsqu'on regarde les statistiques vers la fin, même comme on dit que c'est apathique, c'est 17 tirs.
Oui, surtout en deuxième période. Voilà, 11 17, en deuxième période.
17 tirs, dont 6 cadrés. Ouais. Donc c'est pour ça que surtout je dis que période. Cette équipe de France peut-être n'a pas aussi été dans son registre. Parce qu'il faut savoir que là, l'équipe de France est généralement habituée à jouer en contre. Or, c'est l'équipe de France qui a eu 62% de possession. Et
surtout
finalement, ça
ronronnait, en fait, hein.
Ça tournait en rond. Mmh. Il n'y avait pas des appels, ce n'était pas tranchant. On ne s'engouffrait pas dans des espaces. C'est ça qui a fait que cette équipe de France ne puisse pas tourner. Ce n'est pas... De toutes les façons, on ne commence pas un match de football pied à l'étrier. Non, non, non. Déjà que quand on voit la composition de Didier Deschamps, bon, Rabiot, je suis bien content.
On va parler... plus précisément de cette composition, de ce 11 au départ, mais vous parlez d'une équipe inoffensive, mais en défense aussi, oulala, Yoro, au début, l'image de Konaté, ce pauvre Ibrahima Konaté en difficulté, qui provoque ce pénalty, heureusement pour les Bleus, détourné par Mac Maignan, mais on a senti une fébrilité qui a perduré tout au long du match, d'ailleurs, en défense.
En fait, dans le jeu, c'est la même équipe de France depuis 2022, depuis la finale de la Coupe du Monde, dans le jeu. Après, hier, elle était un peu fébrile, mais dans le jeu, pour moi, c'est poussif, on l'a vu à l'Euro. Il y a des lacunes qu'elle n'avait pas parce qu'avant, elle n'arrivait pas à produire du jeu, ça c'est vrai, mais elle ne se découvrait pas. Donc, on n'arrivait pas à toucher Mike Maignan. Mais hier, c'était là où le bas blesse. Parce que quand même, vouloir voir une équipe qui domine la France, ce n'est pas nouveau, mais qui se crée autant d'occasions, ce que la Croatie a fait en première mi-temps, c'est là où que je n'ai pas compris le jeu de l'équipe de France. Peut-être c'est parce que Deschamps est sur la fin, il va partir, ça c'est clair. Il l'a déjà annoncé. Et qu'il y a une sorte de passage de témoin entre l'ancienne génération qui n'est plus là, celle qui avait gagné, c'est les Griezmann, c'est les Giroud, aujourd'hui c'est les Barcola, c'est les Désiré Doué. Il faudra peut-être aussi du temps pour que cette équipe puisse pouvoir construire quelque chose de solide dans un an.
Mais cette défense, pourtant, Saliba...
C'est la même que celle qui a gagné en Italie,
voilà,
au mois de novembre.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Donc après, ça peut arriver d'avoir des coups de moins bien. On a vu que Konaté, qui a été énormément sollicité par Liverpool ces dernières semaines, avait quand même connu quelques difficultés, notamment contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc Didier Deschamps, il fait le choix de reconduire cette défense qui lui avait permis de gagner en Belgique lors de la phase de groupe de cette Ligue des Nations, de gagner en Italie. Donc il y a quand même quelques références. Et donc ça ne passe pas cette fois-ci. Enfin, c'est une équipe de Croatie qui est aussi une équipe de qualité. Et il peut y avoir de temps en temps des coups de moins bien. C'est pour ça que moi, je ne fustigerai pas la défense comme vous tentez de le faire,
Eric
Mamrut.
Je pense que surnager hier. En Belgique, c'était des sursauts d'orgueil. Ça n'allait pas si bien que ça, l'automne.
L'Italie, c'est qualifié.
On n'était pas loin de la crise. Il y a eu un 0-0 contre Israël.
Depuis
2022. Moi, je suis assez d'accord avec Yoro. Depuis le mondial et la finale contre l'Argentine, elle avance qu'à un cas, cette équipe de France. Il n'y a plus de créateurs au milieu.
Est-ce que le jeu est enthousiasmant? Je vous rejoins. Non, évidemment, lors du dernier Euro, ils vont en demi-finale. La marque de Deschamps, ça n'a jamais été une équipe flamboyante. Ça a été les équipes de Deschamps joueurs, capitaines, comme les équipes de Deschamps, mis à part l'Euro 2000 peut-être, enfin sûrement, mais, et les équipes de Deschamps entraîneurs, ça a rarement été des équipes qui pratiquaient un football flamboyant, mais ça a toujours été des équipes extrêmement efficaces, pragmatiques, rationnelles, cartésiennes. Et là, on se rend compte qu'effectivement, ben, il manque la petite touche de créativité, je pense. C'est pour ça que moi, je fustige pas la défense, mais plutôt les insuffisances en attaque, qui étaient incarnées pendant toutes ces années Deschamps sélectionneur par Antoine Griezmann, qui a été quand même le moteur, l'inspirateur de cette équipe pendant plus de 10 ans, pendant 12 ans, et qui vient d'arrêter. Il faut rappeler qu'il avait honoré ses dernières sélections au mois de septembre dernier. Et bien maintenant, quand on regarde les compositions d'équipe, on voit que Deschamps, il essaye plein de choses. Il a essayé Olise en meneur de jeu, il a essayé Nkunku, là c'était Dembélé en meneur de jeu. On voit qu'il cherche et qu'à l'évidence, pour le moment, il n'a pas de formule très convaincante.
Avant peut-être de rebondir avec Rémi, mais les téléspectateurs, les auditeurs, pour l'instant, on ne parle pas des Croates, mais ils ont quand même fait un gros match. Oui, vous parliez de la motivation au départ. Je pense qu'eux, ils étaient remontés à bloc, à domicile, à Split. La Croatie a mérité sa victoire, nous dit l'abbé Djobo, Mohamed Chogar, Modric, le Mozart des Balkans. Quel match ! Et oui, il est incroyable. Ah, il nous a encore livré une masterclass, la Modric.
Ce milieu de terrain, donc Rémi, avec Dembélé devant et derrière Rabiot, Guendouzi, Tchouaméni, ça ne vous a pas séduit ?
Non, pratiquement pas. Parce que lorsque vous avez franchement des débrouillards comme Rabiot, après Guendouzi, mais ils ne savent pas jouer au ballon. Ça, c'est des chasseurs.
Je vous trouve méchant quand même.
Non, mais ils ne savent pas jouer. Non, soyons sérieux.
Ils ne sont pas des créatifs, on va dire.
Ils ne sont pas des créatifs, mais attends.
À une certaine période, Rabiot, il peut l'être. Avec le ballon, c'est un très bon joueur.
S'il te plaît, vous avez Didier Deschamps, qui a quand même des joueurs qui viennent d'un Paris Saint-Germain hyper flamboyant, qui est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On apprécie ces éléments-là. C'est-à-dire, vous avez les doués qui est surdoué. Vous avez Zahir qui est là. Et vous me dites que c'est Rabiot et consorts qui sont là, qui ne savent pas faire une transversale, qui sont laborieux. Or,
pas exagérer,
regardez maintenant. Ouais. Non, regardez maintenant. Est-ce qu'ils ont été même dans l'intensité? Non. Parce que tout de suite, vous parliez de Modric. Quand vous regardez que Modric a 39 ans, c'est 80 ballons touchés et surtout 6 interceptions et aussi 6 récupérations. Et vous regardez 2 duels au sol gagnés et vous vous rendez compte quand même que de l'autre côté, le milieu du terrain des Bleus n'a même pas fait la moitié de Modric. À partir de cet instant, vous dites, mais c'est pas possible. Cette équipe qui normalement devrait fléchir, parce que quand même, quand on essaie de regarder l'équipe de Croatie, eh bien vous allez vous rendre compte que elle est vieille. Donc, normalement, on doit les bousculer vers les 35e, vers les 35e, 45e, 65e minute. Ils sont déjà morts parce que même en 2022, c'était l'équipe qui avait une moyenne d'âge de 29 ans et 330 jours. Imaginez que 3 ans après, vous vous retrouvez là avec ces vieux-là qui dominent ces jeunes-là, mais ce n'est pas possible.
Moi, je crois qu'il y a le choix des hommes, comme vous dites, parce que quand même, on aurait pu incarcérer dans ce milieu de terrain un joueur un peu plus créatif, un Désiré Doué ou un autre.
Voilà.
Désiré Doué, Olise.
Olise est arrivé en toute fin de match.
Oui,
peut-être
parce
un peu
que
tard.
Moi, dans ce losange, j'aurais bien aimé voir Désiré Doué derrière ou Olise derrière l'attaquant ou derrière les deux attaquants. Par contre, quand on joue en losange, c'était ça le problème hier. Il y a un problème d'abord des hommes, mais il y a un problème tactique aussi. Quand on joue en losange, souvent les côtés sont dégarnis. Et quand on a une équipe joueuse qui est très à l'aise avec le ballon, les Kovacic, les Modric, ce n'est pas quand même des joueurs qui ont des pieds carrés. Ça faisait que, comme sur les côtés, l'équipe de France était dégarnée quand ils jouent en largeur avec ce jeu de damier comme leur maillot, ils ont fait courir cette équipe de France pendant les 45 premières minutes. Et Deschamps, la deuxième mi-temps, il était obligé de changer et de remettre Ousmane Dembélé, comme l'a dit Xavier, sur le côté.
Mais je me demande si dans cette équipe de France, il y a vraiment un patron. En tout cas,
normalement, c'est Kylian Mbappé. Ouais. Et on a vu d'ailleurs son retour, alors qu'il avait été absent lors des dernières convocations.
On se demandait s'il allait garder le brassard.
De nouveau être capitaine. Et Didier Deschamps, j'étais à la conférence de presse la semaine dernière, il a tout de suite répondu à la question de façon très claire. Oui, Kylian Mbappé revient et il revient en tant que capitaine. Mais en même temps, il n'a pas beaucoup d'autres choix. On ne sait même pas qui est le vice-capitaine.
Sur le terrain. Enfin voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un...
Alors, quand on voit un petit peu ce qui se passe en équipe de France, il semblerait que l'animateur, un peu l'âme de cette équipe de France, c'est Marcus Thuram. Et là, il n'est pas là puisqu'il est blessé.
Mais pourquoi? Parce qu'il a la sono sur l'épaule et...
Non, oui, mais ça fait aussi partie du... ça fait aussi partie de l'environnement. Ouais. L'équipe de France, ses grands succès dans les années 80, dans les années 90-2000 et encore récemment, se sont bâtis avec des garçons aussi qui apportaient leur joie de vivre, qui apportaient de la décontraction dans le vestiaire. Des Adil Rami, Ousmane Dembélé déjà à l'époque était considéré...
Kimpembe,
bien sûr.
Mais là, parle d'un vraiment quelqu'un, un taulier, quand ça se passe mal sur le terrain, qui peut redonner des idées ou même créer un petit peu,
attendez,
le jeu. Quoi,
parce mais que... comment est-ce qu'on...
Il n'y a plus Lloris, il n'y a plus Varane.
Il n'y a plus Griezmann.
Il n'y a plus Pogba.
J'ai l'impression que vous êtes en train de dire des choses. Que vous avez un capitaine qui s'appelle Mbappé, qui a fait gagner la Coupe du Monde à la France. Et maintenant,
non,
on me dit...
Oui,
mais attendez,
oui,
aujourd'hui, quand on essaie de regarder, même il est dans le meilleur club. Vous me parlez de Varane, vous me parlez de Lloris, vous me parlez de... Mais attendez, Mbappé, d'abord, c'est pas quelqu'un de timide. Et il faut savoir que hier, par exemple, c'est vrai qu'il a été en échec. C'est vrai que depuis un certain temps, d'ailleurs, il n'a marqué que deux buts en 13 matchs, ce qui est une exclusivité pour lui. Mais il faut savoir que ce Kylian Mbappé-là a été moins bon et il n'avait même plus de jambes. Mais cette fois-ci, il a retrouvé les jambes. La preuve, c'est qu'on a vu ses appels. La preuve, c'est qu'il a été le plus tranchant. Et moi, je crois qu'il est en train de revenir, de redevenir le vrai Kylian Mbappé. Et il y a un proverbe africain qui dit « On reconnaît le cheval sur le chemin ».
Je serais presque d'accord avec Rémy Nguno. Mais pas complètement, c'est pas possible. Effectivement, Mbappé, on sait, est le leader de fait, c'est le plus, celui qui a le plus de sélections, c'est le capitaine de cette équipe. Le problème, j'ai eu encore ce sentiment hier, c'est qu'il veut trop en faire. Or, on l'a vu par exemple, il y avait un dispositif tactique qui était défini avec Ousmane Dembélé en 10, et donc Colomouani et Mbappé devant. Mmh. Et qu'est-ce qu'il faisait Mbappé? Il décrochait tout le temps pour venir faire le jeu. Ce qu'il a pu faire d'ailleurs au Paris Saint-Germain la saison dernière par moment. Donc, parce qu'effectivement, je pense qu'il ne fuit pas ses responsabilités. C'est quelqu'un d'intelligent.
Parce qu'au milieu de terrain, il n'y a pas ce joueur qui peut faire cette passe, qui casse des lignes. Il n'y a pas Griezmann, il n'y a plus Pogba. Et même lui, dans une interview il y a quelques mois, 6 mois ou 10 mois, juste avant qu'il n'arrête avec la sélection lors de la dernière fenêtre, il disait que je décroche beaucoup parce qu'au milieu de terrain, je n'ai plus ce joueur qui était Pogba, qui peut sur une passe, casser deux lignes et me trouver dans la profondeur.
Alors pour le match retour dimanche, qu'est-ce qu'il faudrait changer alors premier lieu?
Déjà, il a changé entre la première et la deuxième mi-temps. Donc
déjà,
on peut imaginer
qu'il... Konaté. Ouais. On ne verra pas Konaté dans l'os au départ, a priori, non? Ça le condamne un petit peu.
Il faut piquer au vif quand même. Donc là, il y a deux buts à remonter.
Konaté ou Pamecano ou Saliba, si vous regardez depuis les derniers matchs, et ils sont trois pour deux places. Donc ça tourne. Ça ne change pas grand-chose en fait. Mais non, c'est surtout l'animation offensive qui est intéressante. Est-ce qu'il faut garder trois milieux polyvalents et seulement trois attaquants, ou est-ce qu'il ne faudrait pas mettre seulement deux milieux polyvalents et quatre attaquants? Moi, je suis partisan de la deuxième formule. Maintenant, quand vous posez la question à Deschamps, parce qu'on lui pose régulièrement dans les conférences de presse, Rémy Nguno, en creux, a apporté la réponse, c'est pas parce que vous additionnez des buteurs que vous additionnez les buts.
Bah, souvenez-vous 2002, Trezeguet, Henri, Cissé, on avait des trois meilleurs buteurs du championnat de France, d'Italie, d'Angleterre.
Et
ils n'ont pas marqué un but.
On l'a vu hier soir. On l'a vu hier soir avec donc l'association Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, que tout le monde attendait, qui jouent d'ailleurs tous les deux dans le même poste désormais là au Real Madrid, l'Auto Paris Saint-Germain. Et ben on a vu que il y avait les réglages étaient pas au point. Le problème, c'est que Deschamps, il n'a que 3-4 entraînements pour préparer ce genre de choses. Quand Luis Enrique, il a mis 6 mois à trouver ses réglages au Paris Saint-Germain, ou Ancelotti avec Mbappé au Real Madrid, pareil. Donc, il doit trouver une solution dans l'urgence, il a l'expérience pour. Il va falloir effectivement qu'il trouve la bonne formule.
Mais si la France est éliminée de cette Ligue des Nations, certes, c'est une compétition secondaire. Mais celui qui se retrouve en première ligne, c'est Didier Deschamps. Hein, il a annoncé qu'il arrêterait après la prochaine Coupe du Monde, 2026. Encore faut-il que les Français se qualifient. Mais là, vous verriez tous les messages qui tombent. C'est Didier Deschamps qui prend cher. Hein.
Oui. Comme toujours, comme d'habitude, c'est pas très surprenant. Rémy, qu'est-ce que vous changeriez déjà pour dimanche, concrètement? Certains joueurs, des remplacements ou le système, comme dit Xavier?
Oui, je changerais d'abord des joueurs. C'est d'abord, tout vient du milieu de terrain, parce que d'ailleurs, vous avez pu voir ça avec la Croatie aujourd'hui. Vous ne pouvez pas jouer avec une équipe qui a un milieu de terrain, qui a par exemple Kovacic et Luka Modric, ou Camarich, même encore, qui revient faire le surnombre, et vous n'avez pas des gens qui peuvent conserver la balle comme Doué. Donc moi, je pourrais dire Doué ou encore Emery et Zahir Emery, parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus créateurs et ils vont créer le surnombre. Parce que qu'est-ce qu'il faut dans cette histoire-là ?
Pas tout à fait le même profil quand même. Hein.
Pardon ?
C'est pas tout à fait le même genre de joueur.
Ben, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes genres de joueurs. On n'est pas dans des tenues de lycée ou bien dans une tenue de l'armée, des soldats. Nous sommes
Désiré
là, justement,
Désiré
pour jouer.
Désiré Doué et Warren Zahir Emery, ce n'est pas vraiment le même jeu.
Oui, registre. Mais tout au moins, c'est des joueurs, tous, qui sont capables de créer quelque chose. Et s'ils réussissent à créer quelque chose, parce que, comme je disais tout de suite là, oui, j'aime bien la façon que Guendouzi a la hargne, a la gnaque et tout. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'il fout avec, derrière ? Rien pratiquement. Donc aujourd'hui, quand vous avez une équipe comme celle de la Croatie, comme je l'ai dit, qui est assez vieillissante, vous devez absolument les étouffer pour empêcher des gens comme, par exemple, Perisic. Regardez comment est-ce qu'il a été libre. Regardez comment est-ce qu'il a attaqué. Il faut contraindre Perisic à défendre parce qu'il a 36 ans. Et on sait très bien que le poison viendra toujours vers là parce qu'il est déjà à 21 contributions depuis le début de la saison. Donc, un bon sélectionneur doit d'abord identifier le danger, l'annihiler, savoir que ces deux pions-là, je les mets dans la cage et hop, je fais développer mon jeu.
Bon, Rémi Gonod sur le banc de touche aux côtés de Didier Deschamps.
On
ce sera
ça,
dimanche au Stade de France pour ce quart de finale retour de la Ligue des Nations. On verra si l'équipe de France parvient à renverser la situation. Bah, sinon, elle devra basculer sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, bah, dont on va parler justement maintenant. Les débuts frustrants d'Aliou Cissé à la tête de la Libye. Je ne sais pas si c'est lui que l'on entendait là un petit peu gémir, mais bon, sa nouvelle équipe a mené 1-0 à Benghazi face à l'Angola hier avant de se faire rejoindre dans le temps additionnel. Score final, un but partout, un nul qui laisse la Libye aller à la troisième place du groupe D à deux longueurs du leader capverdien et à un point du Cameroun. Yoro Mangara, vous avez vu ce match ?
J'ai regardé, oui.
La prestation de la Libye, alors ?
C'était pas mal de toute façon. C'était pas nouveau non plus dans cette faculté que les Libyens ont de ressortir de derrière très proprement avec des joueurs qu'on ne connaît pas mais qui sont très techniques, très à l'aise avec le ballon. Ils ont mené pendant longtemps dans ce match avant de se faire égaliser dans les arrêts de jeu, je crois, à la 93e minute. Ils étaient quand même à une minute de la première place et à une minute d'une première victoire pour Aliou Cissé. Ce qui est dommage pour ce match, quand même, c'est ce qui se passe dans les gradins. Moi, je ne suis pas un avocat des Angolais, mais ce qu'ils ont pris hier, c'est cher. Je ne comprends pas pourquoi la FIFA et la CAF laissent encore des équipes aller jouer dans ce stade.
C'est toujours compliqué d'aller jouer
C'est très compliqué de jouer à Benghazi.
Pourquoi Aliou Cissé est allé, alors je ne sais pas, se mettre dans cette galère en Libye, mais c'est vrai que ça a surpris, lui, le champion d'Afrique sénégalais, le héros de tout un peuple, qui va prendre la 111e nation du classement FIFA. Quel intérêt pour lui, mon cher ami, franchement.
Peut-être commencerai-je par un proverbe qui dit « Mieux vaut un tétard en main que de dormir affamé. » Cela veut dire qu'il est en chômage. Et au-delà de ça, quand il prend le Sénégal, ce n'est pas une super grande puissance. Le Sénégal n'avait rien remporté.
C'est autre chose que la Libye, quand même.
Mais attendez, et on peut aussi remonter dans l'histoire. La Libye avait déjà fait la finale en 1982. D'ailleurs, ils sont battus au tir au but par le Ghana. Et c'est vrai qu'en 2006...
Ça fait 43 ans quand même.
Oui.
Mais attends, je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais qu'en 2012, lorsqu'il y a la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations, Guinée équatoriale et Gabon, est-ce que tu sais que le Cameroun est éliminé ? Est-ce que tu sais que le Nigeria est éliminé ? Est-ce que tu sais que le Ghana est éliminé ? L'Égypte est éliminée.
J'étais au stade quand le Sénégal vous éliminait avec un pénalty raté.
Mais la Libye est qualifiée. La Libye est qualifiée. Donc, si tu voulais parler de 43 ans, ça ne fait pas 43 ans.
J'étais là.
Et il faut savoir que...
C'est la dernière canne des Libyens.
Et il faut savoir qu'il faut rappeler aux auditeurs, aux téléspectateurs que La Libye, c'est d'abord un problème politique parce qu'il y a une guerre qui sera déclenchée.
On parle d'Aliou Cissé surtout.
Donc je voulais dire que c'est pour ça, parce que vous avez voulu dire c'est comme si c'était une équipe qui ne jouait pas au football. Non, c'est pour dire que les problèmes politiques ont fait de telle sorte que la Libye soit également absente et que certains joueurs refusent même de venir jouer après ces éléments politiques.
Alors justement,
politiques.
Pourquoi aller alors que c'est compliqué là-bas, Yoro?
Je crois que c'est de la meilleure des façons, comme j'ai toujours dit. Pour que Pep Guardiola nous prouve qu'il est un bon entraîneur, qu'il aille prendre une équipe moyenne. Comme ça, on voit, comme Mourinho a fait. Maintenant, on va vous juger à lui aussi, c'est justement avec un petit effectif, exactement comme aujourd'hui, on voit l'entraîneur, le sélectionneur gambien. Quand vous faites des miracles avec une petite équipe, vous avez encore beaucoup plus de notoriété. Moi, je félicite Aliou Cissé d'avoir fait ce choix-là, de pouvoir aller là-bas.
Après,
sauf que maintenant...
Je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer la Libye à la Gambie, justement.
Non, mais la Gambie, il nous parle de Tom Sandfield qui a fait des miracles avec la Gambie et qui aujourd'hui est à la tête des Aigles du Mali.
Mais la Gambie était présente ces dernières Coupes d'Afrique des Nations.
Oui, mais c'était, nouveau. C'était nouveau. La Gambie n'avait jamais été auparavant. Voilà. La Libye, comme l'a rappelé brillamment Rémy Ngono, avait été en finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 1982. Alors, c'était chez eux, il faut le rappeler. Ils devaient l'organiser encore il y a quelques années avant que la situation de guerre en Libye...
Même en 2017, c'est eux qui devaient organiser.
Propose, bien sûr, impose de la délocaliser. C'est un pays qui a souvent eu de bons footballeurs. Il y a eu des grands sélectionneurs, enfin des gens connus en tout cas, qui sont passés sur le banc de la Libye ces dernières années. Javier Clemente, l'Espagnol. Corentin Martins, qui avait eu aussi des résultats avec la Mauritanie. Donc, Aliou Cissé débarque là sur ce banc. C'est pas, je veux dire, il tombe pas de nulle part. Il vient, il prend la suite d'entraîneurs réputés qui ont déjà essayé de relever ce défi. Maintenant, je crois que vous l'avez tous dit, c'est très compliqué en Libye actuellement à cause de la situation politique.
La dernière fois, le dernier, c'était Paqueta, qui les a amenés.
Donc il y a une situation politique extrêmement compliquée. En fait, il y a deux pays dans un pays, il faut faire une sélection avec ça. Donc ça, c'est presque ingérable, et il a beaucoup de courage d'y aller. Et je pense que, et je rejoins tout à fait Rémy Ngono, si il fait rien pendant trop longtemps après son passage à la tête du Sénégal, on va l'oublier. Donc là, il tente quelque chose de difficile, et si ça ne marche pas, on ne pourra pas lui reprocher.
Limite, puisqu'avant lui, perdre, quoi. Enfin,
exactement, voilà, avant lui, d'autres ont échoué.
Aliou Cissé, la Libye, ce sera un bon mariage, nous dit Pape Bekito. Hein?
Bon. Yoro, on a aussi dit que il allait un petit peu se remplir les poches parce qu'il est très bien payé là-bas, 76 000 euros par mois. Il est le deuxième technicien africain le mieux payé du continent. Ça peut jouer aussi dans la motivation il veut remonter le football libyen.
Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y ait ces fautes de griffes, comme on dit, on se contente de merle. Il est parti parce qu'il n'a pas
au printemps.
Voilà. Mais cependant, je crois
dernier
que...
mot.
Cependant, je crois que son dernier résultat m'a beaucoup déçu, contrairement à ce que notre cher ami dit. Moi, ça m'a déçu. Pourquoi ? Le nul contre l'Angola. Ouais. Tu dis qu'ils ont beaucoup tenu. Ils n'ont pas beaucoup tenu. Ils marquent à la 73e minute. Et ça me rappelle le Aliou Cissé qui ne parvenait pas à maintenir un résultat avec le Sénégal. Vous vous rappelez, par exemple, contre la Côte d'Ivoire, à la 85e minute, contre le Burkina Faso, 85e minute, je crois que l'autre, là, c'était 95e minute même aussi. Et là, ils prennent un but à la 93e minute. Ça fait qu'il y a quand même beaucoup de choses chez Aliou Cissé qu'on appelle El Tactico, mais tactiquement, il s'effondre vers la gestion des fins de match.
Ben justement, le tactico, on va voir ses capacités de rebond, puisque le prochain match de la Libye, ça va vous intéresser, je pense, mon cher Rémy, ça sera mardi, contre le Cameroun.
Qui a fait un nul à
Eswatini. Et les Lions indomptables seront...
Qui a perdu ses quatre premiers matchs, mais 0-0 en Afrique du Sud face à Eswatini. Ça pourrait coûter cher à l'arrivée.
Non, ne relancez pas mon...
Non, ça ne va pas
Rémy.
Coûter cher.
On doit passer à autre chose.
En 2017, n'oubliez pas qu'on avait été dans les mêmes conditions avec Hugo Broos, un Belge.
Tout va bien.
On avait pris un avion, on était calé à l'aéroport pendant 4 heures de temps. On avait fait match nul. On a dit que le Cameroun, c'est fini. En 2017, finalement, on remporte la CAN.
Cameroun-Libye, ce sera mardi avec Aliou Cissé. D'Aliou Cissé à la sélection sénégalaise, il n'y a qu'un pas. On le franchit allègrement. Et vous savez où va jouer le Sénégal demain, justement, face au Soudan? C'est quand même la coïncidence.
À Benghazi.
À Benghazi.
Et ils sont arrivés, d'ailleurs.
En Libye. Mmh. Voilà. Est-ce que, d'ailleurs, donc le match phare du groupe B entre les deux premiers, hein, le Soudan est leader avec 2 points d'avance sur le Sénégal. Et je me demandais, Yoro, si Aliou Cissé allait dire un coucou à son ancienne équipe et à son successeur sur le banc de touche, Pape Thio, pour encourager lui et ses anciens poulains.
Je ne sais pas s'il va le faire, mais c'était très tendu au Maroc il y a un mois. Parce que, voilà, je crois que c'était lors du... Je ne sais pas ce qui se passait au Maroc, je ne sais plus. Les CAF Awards. Et je crois qu'Aliou Cissé n'avait pas dit bonjour à... Pas qu'à l'encadrement, mais à la délégation sénégalaise tout court. Pourquoi il l'a fait, je ne sais pas. Certains se sont plaints, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est des...
C'est pour l'anecdote, en tout cas. Ça sera à Benghazi.
Après, donc, je ne sais pas s'il le fera cette fois-ci. Bon, c'est dommage. Mais c'est possible qu'il le fasse.
Mais pour parler de Pape Thio, justement, qui est, si je ne m'abuse, invaincu en 4 matchs depuis qu'il a remplacé Aliou Cissé. 4 victoires, 2 contre le Malawi, une face au Burkina. Et la dernière contre le Burundi. On peut dire que la transition s'est bien faite entre les deux sélectionneurs. En tout cas... Les Lions sont entre de bonnes mains pour l'instant.
On sait que le Sénégal a énormément de talent et on voit d'ailleurs en Ligue 1 beaucoup de jeunes joueurs sénégalais arriver avec beaucoup de qualité. Le problème, c'est que quand vous êtes un sélectionneur pendant longtemps et que vous avez des cadres sur lesquels vous vous appuyez, le jour où ces cadres commencent à baisser un petit peu en performance parce qu'ils ont vieilli, parce qu'ils évoluent dans des championnats peut-être moins performants, c'est difficile de vous en séparer. Et même si les jeunes sont bons, il va falloir qu'il soit très bon pour prendre la place de ces cadres, surtout quand il s'appelle Sadio Mané, Kalilou Koulibaly ou Ganagay. Ils sont toujours là, bien sûr, mais c'est difficile. Quand vous êtes
un... penser à l'équipe de France, hein, ce qu'on disait.
Oui, à part qu'en équipe de France, les cadres, ils sont partis.
Ils ont fini par partir.
Voilà, ils sont partis. Ils sont même partis, certains, avant même 30 ans. Mais ils sont toujours là. Et donc, quand vous avez un nouveau sélectionneur, c'est plus facile de redistribuer les cartes, de régénérer le groupe, de faire appel à des nouveaux et de lancer ces nouveaux. Donc, je pense que c'est cette période qu'on est en train de vivre avec le Sénégal.
Là, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, hein, appelés par, il y en a 6, appelés par Pape Thio pour ce rassemblement.
Oui, il y a Diao de Com, il y a Ivan Diouf, le gardien de Reims, il y a également Mendy de Nice.
Tidiane, Richard Sagnard.
Exactement. Notamment. Alors, certains vont pouvoir jouer dès demain parce que quand même la FIFA a déjà donné quitus pour qu'ils puissent faire partie du groupe. Je crois que nous avons le Sénégal de très bons joueurs aujourd'hui parce que si je vois dans cette sélection Ablaye Niakhate Ndiaye qui fait un très bon parcours en Ligue des Champions avec le Stade Brestois qui n'est pas dans le groupe, tu verras quand Michael Ngourfaï de Rennes n'est pas dans ce groupe.
Et il y a une pléthore de joueurs, c'est impressionnant le vivier qu'a le Sénégal.
Exactement.
Après, il joue à 11. Hein.
C'est ça.
Et c'est ce qu'il disait, c'est tellement vrai aujourd'hui. Quand on convoque un joueur comme Abdou Diallo et que moi, Niakhate Ndiaye, je fais toute une Ligue des Champions, je ne me vois pas dans le groupe, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai joué la Ligue des Champions, alors que l'autre, il est au Qatar, parce que oui, l'autre, il est au Qatar, mais il a gagné la Coupe d'Afrique. L'autre, il est au Qatar, oui, mais c'est un cadre du vestiaire et qu'il faudra faire avec lui. C'est très compliqué pour Pape Thio, mais il faudra justement qu'il essaie de gérer ce mixte entre les anciens et les nouveaux.
C'est une bonne émulation. En tout cas,
c'est peut-être le tournant dans ce groupe, hein, ce match Soudan-Sénégal. Ils ont 2 points de retard sur les Soudanais. S'ils perdent ce match à Benghazi, ça ferait 5 points.
La chance que nous avons...
Bon, il reste encore 5 journées,
mais la
RDC qui a encore un coup aussi.
Il y a le Léopard du Congo, pas loin.
La chance que nous avons, c'est que déjà, eux, ils jouent à l'extérieur, parce que le Soudan aussi, c'est très compliqué.
Ouais, ils ont l'habitude de jouer à Benghazi, ils sont quasiment chez eux. Non, mais
Mais ça, c'est un. De deux, ils ne nous ont jamais battus. 3 matchs, 3 défaites face au Sénégal. Et de 3, aujourd'hui, quand même, on a l'habitude de ces grands matchs, ces matchs au couteau, on les perdait il y a 5 ans.
Même cette équipe rajeunit.
Oui, rajeunis.
Contre RDC, ils n'ont pas gagné les Lions de la Teranga là, au dernier match. Ils ont fini nul. Hein.
Mais après, qu'est-ce qu'on a fait?
Oui, mais bon.
Et voilà.
Mais il y a un élément, pour rebondir rapidement sur ce que disait Fred Sutto, c'est que cette équipe soudanaise, effectivement, il y a la guerre au Soudan, mais la plupart des internationaux évoluent dans les deux grands clubs du pays, Al Merrikh et Al Hilal, qui disputent le championnat de Mauritanie, qui ont été invités par le président de la fédération mauritanienne, qui est aussi vice-président de la CAF, à participer au championnat. Donc, ce sont des joueurs qui restent compétitifs.
Ils font de très bons résultats en Afrique, parce qu'aujourd'hui, Al Hilal fait partie de ces équipes leaders en Champions League en Afrique.
Et faut-il être inquiet d'un mot, Rémi, pour cette équipe sénégalaise contre cette équipe soudanaise qui, quand je regarde quand même leurs trois derniers matchs, assez soudanais, un nul contre Oman, une défaite 4-0 au Niger, au calife de la CAN, et un nul contre l'Angola. Donc on se dit, en fait, cette équipe qui est quand même entraînée par Kwesi Appiah, le Ghanéen, n'est pas née de la dernière pluie. Bon, est-ce que les Lions sont si en danger que ça, Benghazi?
Vous parlez justement de cette équipe sénégalaise qui a quand même des gens qui ont fait la pluie et le beau temps, puisque je rebondis sur vous. Et quand vous avez les Sadio Mané face à ces Soudanais qu'on ne connaissait pas, mais qu'on connaît déjà mieux cette fois-ci, c'était une surprise dès le départ. Mais maintenant, tout le monde a vu comment est-ce qu'ils jouent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se font assommer, matraquer au Niger par 4-0. Donc moi, quand je vois par exemple cette équipe du Sénégal, elle a encore beaucoup de réserves. Et je regrette que beaucoup de Sénégalais et parfois la presse tentent aujourd'hui de minimiser l'apport de Sadio Mané, qui est quand même un joueur, un atout très important, de même que tous ces leaders-là. Donc je leur dis toujours que gardez au moins celui-là avec son honneur, avec tout ce qu'il a donné et qu'il est encore capable de donner. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de Sénégal ayant eu à briller sur le plan continental, c'est grâce d'abord à cette génération.
Et parce qu'il fait aussi briller Cristiano Ronaldo, on a compris, Rémi.
oui, mais non. Parce que, les autres équipes que vous aviez, ils ont brillé où? Ils n'ont jamais brillé en Coupe d'Afrique des Nations. Donc Sadio Mané est là. Il faut que les Sénégalais apprennent le proverbe sénégalais qui
Rémi
dit
Ronaldo.
Que... Ah oui! Que quand s'arrête la pluie, il ne faut pas oublier son parapluie.
À méditer. Soudan-Sénégal, l'une des affiches de ce week-end, donc ça sera demain. Ensuite, les Lions recevront le Togo, sera mardi prochain à Dakar. Voilà pour l'Afrique, on part tout de suite en Amérique du Sud. Brasil. Brasil, les Vinicius a surgi à la 99e minute, un tir lointain puissant et dévié qui trompe le gardien colombien, but qui a délivré la Seleção, qui s'impose à l'arraché 2-1 à Brasilia face à la bande à James Rodriguez, 3 points ô combien précieux, qui permettent au Brésil de seulement 5e avant cette 13e journée de remonter à la 2e place provisoire du classement. Ouf pour cette formation brésilienne qui avait grand besoin de victoire, elle qui avait déjà perdu 4 fois dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bon, est-ce que c'est le signe vraiment cette victoire que ça va mieux pour cette formation?
J'ai regardé le match jusqu'à la préfinale vers 4h du matin, c'était chaud. À un moment, les cafétéristes avaient vraiment corsé la chose. Je crois qu'on a vu le Brésil dans les 10 minutes du temps additionnel. C'est-à-dire pour vous dire qu'ils étaient vraiment, 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 vraiment mal en point dans ce match. Ils ont fait beaucoup de changements. Vinicius inexistant presque quasiment toute la deuxième période.
Pas jusqu'à la fin quand même. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué.
C'est lui qui avait provoqué le pénalty en tout début de match transformé par Rafinha. Mais c'est vrai que c'est un Brésil très loin du niveau qu'on lui connaît. Il n'y a aucune constance. Ça joue par à-coups. Et ils se sont fait vraiment bouger par une très bonne équipe colombienne qui est quand même vice-championne d'Amérique du Sud. Il ne faut pas oublier que les Cafeteros étaient en finale de la dernière Copa América en juin dernier contre l'Argentine.
James avait terminé meilleur joueur.
Exactement. Et donc, James, pareil, oui, qui ressuscite sous le maillot de l'équipe nationale alors qu'il est sans club ou enfin il change tous les 6 mois. Vraiment, ils ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Pas du tout rassurant. En plus, cette anecdote, ils ont procédé à 7 changements de joueurs. C'est la première fois que je voyais ça pour une raison très simple. C'est qu'en fait, comme il y a eu un choc de tête entre le gardien Alisson et le défenseur Davidson Sanchez, du coup, il y a eu 2 protocoles de commotion cérébrale. Et la nouvelle réglementation dit que chacun a le droit à faire un remplacement supplémentaire. Donc, il y a eu un 6e remplacement pour Alisson et un 7e pour Davidson Sanchez. Les Colombiens ont fait que 4 changements, mais les Brésiliens en ont fait 7. Donc, du coup, on a eu un match avec beaucoup, beaucoup de rebondissements, mais pas vraiment un beau match.
Le Brésil malade tactiquement ou c'est dans la tête, on sent qu'il devient fébrile très, très rapidement.
Oui, il y avait des madeleines et je suis surpris que lui, mon cher frère qui regardait le match à la radio.
À la radio.
Parce que si tu me dis que Vinicius a été inexistant, et heureusement Xavier Barré, qui est souvent malhonnête, a réussi à te rattraper pour te dire que c'est lui qui provoque le pénalty et c'est lui qui donne la victoire à la 99e minute.
La question était au sujet du Brésil,
donc,
monsieur.
Donc, il était bel et bien, il a reçu le prix d'homme du match. Donc, ne dis pas qu'il était inexistant. Bon. Cela veut dire que tous les autres joueurs étaient inexistants, sauf Vinicius. Maintenant, est-ce que ce Brésil peut être fort tactiquement? Non. Pourquoi? Parce que vous savez que le Brésil a toujours eu des latéraux qui sont très offensifs. Or, hier, la faiblesse du Brésil, c'était ces deux latéraux. Et du coup, vous n'avez plus les Marcelo, les Roberto Carlos. Vous avez...
Mais Vanderson et l'autre, ils ont été changés après.
Oui, mais à part que Vanderson, il était au marquage de Luis Diaz de Liverpool. Et il a eu beaucoup de mal.
Il a
et
eu
que
Guilherme
Arana, de l'autre côté, il avait un autre ailier colombien qui lui a aussi posé beaucoup de problèmes.
Oui, beaucoup de problèmes. Ça fait de telle sorte que... Et de surcroît, il y avait... Même s'ils cherchaient à s'entendre, à se trouver... Le problème, c'est qu'ils évoluaient presque dans le même registre. Rafinha... Et, bien évidemment, Vinicius, eux tous du côté gauche. Et du coup, il y avait un peu du bouchon de ce côté-là. Et là aussi,
mais est-ce
on
que
a
le
constaté...
problème, il vient vraiment de ça? Parce que ça fait un moment que ça pêche du côté brésilien. Je ne sais pas, au milieu du terrain, Neymar, il devait faire son retour, il n'est pas là. Il n'y a pas de créateur. Pourtant, il y a des joueurs de talent dans cette équipe.
C'est vrai que Neymar a pendant une dizaine d'années focalisé tout le jeu, aimanté tout le jeu du Brésil. Et en son absence, on voit que c'est Bruno Guimaraes qui est le meneur de jeu, le joueur de Newcastle.
Il est sorti hier d'ailleurs, il n'était pas flamboyant. Donc.
Oui, mais bon, comme ils ont fait 7 remplacements, ils ont remplacé les 2/3 de l'équipe. Mais c'est un nouveau Brésil qui est en train de se mettre en place, avec un nouveau sélectionneur, puisqu'il a changé il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Donc du coup, il faut qu'il trouve une nouvelle équipe, et pour le moment, ils en sont loin. Et ça risque d'être très compliqué contre l'Argentine.
Même si Messi ne sera pas là, Lautaro Martinez non plus, Paulo Dybala, ils sont blessés.
Je reconnais l'Argentin, là, qui s'exprime.
Non, mais c'est un peu notre ARS, ça. Ça sera
un beau match, effectivement. Peut-être, effectivement, là, on verra si, effectivement, la sélection a retrouvé des couleurs. En tout cas, le Brésil est bon. Il y a 6 ou 7 qualifiés sur 10 dans ces victoires pour la Coupe du Monde pour la phase finale l'an prochain. Donc, on peut dire que le Brésil sera quasiment qualifié. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Donc, Dorival Junior a du temps, à la rigueur, pour reconstruire quelque chose. On s'arrête là parce qu'il faut passer au carton, là.
Carton jaune.
Un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là. Carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Toujours haut en couleur, ils nous viennent cette semaine du Togo, du Sénégal, du Gabon, de la Guinée, des deux Congos. Ce sont vos cartons de la semaine.
Bonjour Radio Football, bonjour Café d'Est, moi c'est Benjamin Baoulé de Picara au Togo. Mon carton est tout simplement de couleur verte à l'équipe de la Croatie. Oui, qui se sont réveillés en battant la France de Kylian Mbappé par 2-0. Vraiment, c'est à féliciter. Merci.
Salut, moi c'est Baye Makouma Diop depuis le Sénégal. Carton vert à Newcastle United qui a réussi enfin à regagner un trophée 70 ans après. Imaginez, depuis 1955, Newcastle n'avait plus remporté de trophée. L'Angleterre n'était pas encore champion du monde en 1966. L'attente a été trop longue même pour ses supporters. Mais enfin, le trophée est arrivé. Bonne continuation à Newcastle et bonne chance pour le futur. Ciao!
Salut Radio Foot International, c'est Nathan Moulunda à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Comme aujourd'hui, vous voyez, je suis en maillot en République de la RDC qui joue contre le Soudan du Sud. Je vais mettre un carton rouge. Un carton rouge aux deux instances de football espagnol. La Liga et la Fédération espagnole de football pour avoir programmé le match Barcelone-Osasuna le 27 mars prochain. Tandis que Osasuna joue le match le 28 mars contre Atlético Bilbao. C'est inadmissible de mettre le match le 20. Osasuna est victime. En tout cas, carton rouge à la Liga et à la Fédération espagnole de football. Merci.
Bonsoir à tout le Café des Sports. Je suis Dylan depuis le Gabon. Mon carton vert ce jour s'adresse à M. Rimingono, qui à chaque fois qu'il parle mal du FC Barcelone, mais le FC Barcelone gagne toujours. C'est à croire que M. Ngonna devient le porte-bonheur du FC Barcelone. Et comme le dit un de mes proverbes cette fois-ci, si on parle, on parle, on parle, ça finira bien par marcher. N'est-ce pas, M. Ngonna?
Salut la grande équipe de la Radio Foot Internationale, c'est Gianni Mopila depuis Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Mon carton, il est rouge. Et je donne ce carton rouge aux responsables du football congolais. Là, les autres équipes africaines jouent les qualifs de la Coupe du Monde 2026 et nous sommes suspendus par la FIFA. On ne peut plus jouer de compétition internationale. Tout cela à cause de votre mauvaise gérance. Ingérence gouvernementale dans le football congolais. C'est pas bien. Vous nous faites souffrir, nous les supporters des Diables Rouges. Carton rouge aux responsables du football congolais.
Mon carton, il est vert. Je le décerne à monsieur Elie Mallam qui nous a construit ce très beau stade à la jeunesse sénégalaise. Avant, la commune de Liberté 6 n'avait pas où jouer au foot. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité grâce à cet homme qui est engagé dans le sport. Nous avons besoin d'hommes comme monsieur Elie Mallam. Cela prouve encore une fois qu'on peut ne pas être politicien et bien aimer sa commune.
Bonjour RFI, c'est Diallo Yagou pour Parole depuis Kindia en Guinée. Pour cette semaine, je donne un carton vert à Luka Modric pour le match qu'il a opéré hier contre la France. Malgré ses 39 ans, il a prouvé que jusqu'à présent, la Croatie peut compter sur lui. Je lui souhaite une bonne chance pour la suite. Merci.
Atlético, c'est pas Benfica. Alors, non, respecte ce Real-là et surtout, respecte Simeone qui venait de faire 4-4 avec le Barça.
Bonjour Radio Foot International, c'est Ndari depuis N'Djamena. Aujourd'hui, j'adresse un carton vert au FC Barcelone pour son match mythique au Metropolitano. Rémi, on peut détester le lièvre, mais on ne peut pas lui retirer sa vitesse. On peut maintenant sauter au mur ou pas. Et par modestie, le Barça n'a marqué que 4 buts. Ça te rappelle quelque chose? Bon café des sports.
Piquant, piquant, ouais, les cartons bon, hein, cette semaine. Allez, Rémi, à vous de répliquer votre carton de la semaine.
Piquant, mais cependant vert. C'est du piment vert que je donne justement comme carton à Doumbia Kamouri, qui fait des miracles, des choses pas possibles avec le Mali. Justement, il a encore inscrit un doublé. Et ça lui fait déjà quand même 13 buts en 22 sélections et surtout 4 passes décisives. Il est déjà co-meilleur buteur même de cette édition de la Coupe du Monde éliminatoire Afrique. Et il n'a que 22 ans. Comme le dit donc un proverbe africain, le piment est petit, mais il pique.
Xavier,
Robert Pires, Olivier Dacour, Bafétimbi Gomis, Gridjambok, vous connaissez? Eh bien, lundi, ils vont tous faire partie du comité de solidarité que lance l'UNFP, l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels en France, pour justement venir en aide à tous ceux qui auront des problèmes liés à la situation financière ou économique et qui sont liés à la famille du football. Donc bravo à l'UNFP pour lancer cette nouvelle structure, toujours pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.
La couleur de votre carte, on y
va. Vert, c'est pour Michael Faye, défenseur du Stade Rennais, qui a été acheté cher du Barça et là qui commence à retrouver des couleurs avec Abibé sur le banc. Il n'était pas dans le groupe et là, il revient. Il a fait un très bon match face au Racing Club de Nantes.
Frédéric ?
Carton vert, elle est piquante. Elle joue à l'Olympique lyonnaise, les filles de Lyon, Ligue des Champions et le but de Tabitha Shawinga. Quart de finale aller contre le Bayern, elles ont gagné 2-0. Elle fait partie des grandes attaquantes européennes.
La Malawi. Le carton vert de Radio Foot à Pierre-Olivier Guérin qui fête son anniversaire aujourd'hui, notre collègue. Très bon anniversaire, Pierrot Guérin, notre collaborateur Radio Foot Café des Sports. Voilà ce nouveau numéro printanier piquant qui s'achève. C'est un grand plaisir, messieurs. Un grand merci. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, à bientôt.